France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
C'est l'une des principales réformes de l'année. Ce sera le temps fort politique de cette semaine. Le projet de loi pour transformer la fonction publique sera présenté mercredi. Il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France et c'est un sujet qui a été beaucoup discuté aussi lors du grand débat national. Bonjour Fabien Tasté.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes haut fonctionnaire, président de l'Association des administrateurs territoriaux de France. Vous représentez donc les hauts fonctionnaires. Alors d'abord, juste une petite parenthèse. C'est quoi d'ailleurs un haut fonctionnaire? Qu'est-ce qu'il définit et combien y en a-t-il?
Alors, vous l'avez dit, il y a à peu près 5 millions de fonctionnaires en France, et vous savez que la fonction publique en France, elle est divisée en trois versants. Mm-hmm. Il y a les fonctionnaires qui travaillent dans l'État, l'hôpital, il y a les fonctionnaires qui travaillent à l'État, et il y a les fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités locales. Il y a à peu près 35 000 collectivités en France. Mm-hmm. Les administrateurs territoriaux, c'est les hauts fonctionnaires territoriaux. Ils sont sous l'autorité des élus, à la tête des communes, des départements, des régions. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont des hauts fonctionnaires de terrain. Ce sont à la fois des fonctionnaires qui participent à la définition de la stratégie sous l'autorité des élus, et puis c'est des hauts fonctionnaires qui ont des missions du quotidien, qui gèrent des conservatoires, qui gèrent des médiathèques, qui gèrent des piscines.
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont hauts fonctionnaires par rapport à un
dans
fonctionnaire
la décision,
classique?
Ben, ils sont à la tête.
C'est quoi? C'est une rémunération? Ça appartient?
Oui, ils sont à la tête des collectivités locales sous l'autorité des élus, donc ils occupent des fonctions de direction, de décision, des fonctions de direction générale adjointe, des fonctions de direction. Donc ils sont sur des missions qui ne sont pas des missions opérationnelles, et ils ont la responsabilité de l'encadrement de tous les autres fonctionnaires. Voilà, c'est ce qui les distingue de des autres fonctionnaires. Il y a à peu près 1500 hauts fonctionnaires territoriaux
en France,
et ils se répartissent dans tous les niveaux de collectivités locales, un peu partout sur le territoire.
D'accord. Alors le gouvernement estime que la fonction publique a besoin d'être modernisée, hein, c'est le terme qui a été employé. Vous pensez qu'une réforme est nécessaire?
Oui, je pense qu'une réforme est nécessaire. La fonction publique, c'est pas une sorte de relique devant laquelle on se prosterne et qu'on refuse de toucher. C'est un texte qui a besoin d'évoluer, de s'adapter aux évolutions de l'époque, aux exigences du temps. Donc c'est bien que ce texte existe, il faut féliciter le ministre d'en avoir pris l'initiative. Et d'ailleurs, la fonction publique, elle a été à plusieurs reprises déjà réformée. Ensuite, ce texte, il a le mérite d'exister, je l'ai dit. Il contient des dispositions qui sont intéressantes, on y reviendra. Mmh. Mais il est loin d'être satisfaisant. Il ne peut pas être voté en l'état. Et d'ailleurs, je constate que des parlementaires de la majorité expriment d'ores et déjà un certain nombre de réserves après celles qui ont été exprimées par les associations d'élus. Et vous avez vu qu'il y a une mobilisation aussi des organisations syndicales. Donc je pense que ce texte, on a 3 mois maintenant pour le travailler, pour l'améliorer. Il faut dire chiche en quelque sorte au ministre, puisqu'il a lui-même dit qu'il était en attente de propositions. Donc chiche, proposons, essayons d'améliorer ce texte. Je crois qu'il y a, on va y venir, 3 grands axes d'amélioration pour que ce texte soit un vrai outil qui fait évoluer la fonction publique et qui l'a fait en quelque sorte passer au XXIe siècle.
Alors d'abord les bons points, parce que vous avez dit que tout n'était pas acheté dans cette réforme.
Mais je prendrai par exemple la parité. La mobilisation pour l'égalité professionnelle homme-femme, c'est un sujet essentiel. Nous, on y travaille beaucoup. Et vous savez qu'il existe depuis 2012 déjà dans la fonction publique un dispositif qui oblige à nommer sur les postes de direction des quotas minima d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nommer moins de 40% d'hommes ou moins de 40% de femmes. Et cette loi, elle a permis un rattrapage, même si on est encore loin du compte, dans l'accès des femmes aux postes de direction, dans les hôpitaux, à l'État et dans les collectivités locales. Il fallait aller plus loin. La loi le fait. Et nous, on avait fait une proposition qui a été reprise intégralement par la loi, qui consiste à dire il faut que davantage de collectivités soient soumises à cette obligation. Jusqu'à présent, c'était les collectivités de plus de 80 000 habitants qui étaient soumises à cette nomination, à cette obligation dite de nomination équilibrée. La loi abaisse le seuil à 20 000. Désormais, toutes les collectivités locales de plus de 20 000 habitants devront procéder à des nominations équilibrées. Donc ça, c'est bien. On peut encore aller plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de traiter le haut de la pyramide administrative, les postes vraiment stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, de direction générale, de direction.
Il faut que ça concerne tout le monde.
Il faut aussi que tous les postes d'encadrement soient concernés. Parce que quand vous voulez qu'une femme accède à un poste de directrice générale des services, il faut qu'elle ait été directrice avant. Le parcours est plus simple. Et donc, il faut faut que vous englobiez dans cette obligation de nomination équilibrée tous les postes d'encadrement et pas que les postes d'encadrement stratégiques. Ça, c'est le plus vers lequel il faut encore aller. Et on a donc, comme je disais tout à l'heure, 3 mois pour y arriver.
Et qu'est-ce qui pêche dans cette réforme ?
3 choses peut-être. D'abord, c'est pas une réforme technique, la réforme de la fonction publique. C'est un sujet très politique. La fonction publique et service public, ça intéresse les Français. Tous les jours, vous, moi, nos concitoyens, on est en relation avec une dizaine de services publics. Quand on prend notre douche le matin avant de venir à France Inter, c'est un service public local qui est souvent géré ou piloté par des fonctionnaires. Donc ça concerne tout le monde, et puis il y a 6 millions de fonctionnaires, donc on a tous un parent, un ami, une connaissance qui est dans la fonction publique. C'est un sujet très politique, et du coup, cette loi, elle peut pas être à côté de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, des aspirations qu'on voit monter depuis plusieurs semaines chez nos concitoyens. Il faut que l'administration ressemble davantage à la société. Ça, c'est un premier enjeu qui est pas vraiment bien traité par la loi.
Donc
ça
dans
veut
le
dire
recrutement.
Quoi ? Ça veut dire la parité, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais là, c'est plutôt un bon point qu'on peut délivrer au gouvernement, mais ça veut aussi dire l'égalité des chances. Comment on fait pour que un jeune de banlieue, un jeune de la France périphérique, puisque ça fait partie des sujets du moment, puisse accéder à l'administration, ne soit pas discriminé. Vous savez, quand vous êtes un jeune en zone rurale, vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous connaissez pas tel ou tel chef d'entreprise, vous n'avez pas forcément les codes pour faire les bonnes études et pour vous élever par le secteur privé, donc, vous passez un concours de la fonction publique.
Parce et ça, que... c'est notamment valable pour les hauts fonctionnaires, où là, il y a une reproduction des élites qui est flagrante.
Absolument. Vous savez, la part des enfants d'agriculteurs, des enfants d'ouvriers, à l'ENA, mais l'école des hauts fonctionnaires territoriaux, c'est pareil. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose dans la loi. Donc nous, on fait un certain nombre de propositions pour que demain, on puisse dire que il n'y a pas de déconnexion entre l'administration et le corps social, que
une
l'administration ressemble davantage au pays. Je vous donne un exemple.
Rapidement, parce que là, ça, le temps défile.
Les classes préparatoires intégrées, par exemple, c'est un système qui permet de préparer justement des jeunes qui viennent de milieux modestes à accéder à l'administration. On peut développer le système, on peut développer les systèmes de bourse pour ces jeunes. Bref, il faut plus d'égalité des chances dans cette loi.
Les deux autres points négatifs ?
Les deux autres points négatifs, c'est le fait que cette loi ne réconcilie pas le pays avec son appareil d'État. Vous voyez bien que ce qui émerge depuis quelques mois dans les débats, c'est ce sentiment que l'appareil d'État, Paris et les ministères, en gros, le pouvoir central, les cabinets ministériels, les ministères sont déconnectés du pays. Comment on peut ouvrir l'appareil d'État à d'autres profils que ceux qui l'occupent aujourd'hui, qui sont des hauts fonctionnaires d'État? Ça, c'est toute la problématique du brassage des 3 fonctions publiques. Comment vous pouvez mettre dans l'appareil d'État, dans les ministères, des fonctionnaires de terrain pour sortir de l'endogamie de l'appareil d'État? Ça, c'est un sujet qui n'est pas traité. Et puis, le dernier sujet, c'est l'efficacité. Les Français, ils sont en demande de plus d'efficacité de l'administration. L'efficacité, c'est les économies. On n'en parle pas dans cette loi.
C'est quoi, c'est supprimer des postes de fonctionnaires?
Je pose pas le problème comme ça. Je vois bien que la méthode qui consiste à jeter comme ça des chiffres à la cantonade, 120 000 postes, et puis après on ne sait pas vraiment très bien comment le mettre en œuvre, c'est pas une méthode qui fonctionne. Il faut regarder la réalité des choses. Nous, ce qu'on constate par exemple, c'est qu'il y a des administrations qui sont en doublon dans les territoires. Vous avez l'administration du préfet, l'administration du président du département, et souvent vous avez des doublons. Si vous supprimez ces doublons, vous faites pas reculer le service public, c'est des gens qui font la même chose. Par contre, vous pouvez générer un certain nombre d'économies. On a un chiffrage, nous, qui est autour de 20-30 000 postes. Vous voyez qu'on est assez loin du chiffre dogmatique.
Doublons.
Voilà.
D'accord.
On est sur 20-30 000. En partant de la réalité, c'est une meilleure méthode que de jeter comme ça un nombre de 120 000 postes sans savoir vraiment comment on peut faire pour le mettre en œuvre. Et l'efficacité, c'est aussi les droits des agents. Parce qu'une administration qui fonctionne bien, c'est une administration où les agents sont bien dans leur basket. Et de ce point de vue-là, on peut améliorer aussi la loi et essayer de créer une nouvelle génération de droits en conformité avec les nouvelles contraintes et les nouvelles exigences du monde du travail.
Et
donc
voilà.
3 chantiers sur lesquels on peut avancer en 3 mois.
Et vos propositions sont sur la table. Merci beaucoup Fabien Tasty d'être venu à France Inter. Vous êtes le président de l'Association des administrateurs territoriaux de France.